Bonjour tout le monde.
Voilà.
Ça, c'est pas à vendre. Bonjour à chacune, chacun. Je m'appelle Robbie, je suis un des anciens ici dans cette église. On s'est levé ce matin en pensant qu'il ne faisait pas si chaud que ça. Et puis maintenant, fait quand même chaud. Donc, est-ce que les deux portes à l'extérieur sont ouvertes, Canette? Oui, sont-ils les deux? Très bien. Mais on va ouvrir nos Bibles à Matthieu 25. On va ouvrir nos Bibles à Matthieu 25. On suit cette série dans les paraboles. Matthieu chapitre 25, verset 14 à la page 986. J'ajoute mon mot de bienvenue à tout le monde. Il y a aussi une équipe d'étudiants de l'université de Durham ici, si vous pouvez juste lever la main. Ils sont là en voyage missionnaire pour aider avec le camp Interaction qui démarre cet après-midi. Ils sont là aussi pour goûter un peu à la vie à l'étranger, pour servir le Seigneur. Donc c'est avec joie qu'on vous accueille ici. Il y a Robin aussi, tu peux juste te lever. Robin, te lever. Voilà. Elle sera stagiaire avec nous entre septembre et janvier, un peu comme Emma et Joe l'année passée. Donc, elle est la nouvelle Emma et Joe. Donc, voilà, vous pouvez la saluer après. Prions ensemble avant d'aller plus loin. Ta parole est une lampe pour nos pieds. Notre Père, c'est vrai, sans ta parole, nous serions perdus dans ce monde. Et donc, nous voulons nous mettre à l'écoute d'elle maintenant. Parle-nous, Seigneur. Et que tu nous fasses du bien, que tu nous mettes au défi là où il faut. Et que tu nous encourages dans notre marche avec Jésus en attendant son retour. Et nous t'en prions en son nom. Amen. Voilà, lisons ensemble Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera, c'est-à-dire le royaume des cieux, sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. » Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que je jamasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait d'en remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jusque-là, la lecture ce matin. Quel est le but de votre vie? Quel est le but de votre vie? Qu'est-ce qui vous motive dans votre prise de décision et dans vos projets? Ou autrement dit, qu'est-ce que vous rêvez d'accomplir ici sur Terre? Ce matin, dans la parabole que Jésus nous raconte, il va nous expliquer quel doit être le but de chaque chrétien dans le monde. Et si vous êtes ici, vous êtes plutôt en recherche, vous n'êtes pas encore chrétien, il sera utile pour vous de voir à quoi la vie chrétienne ressemble si jamais vous vouliez devenir chrétien. Et pour d'autres qui sont déjà croyants en Jésus-Christ, nous allons voir ensemble à quoi sert notre vie ici-bas. Dans cette section de l'évangile de Matthieu, Jésus est en train d'enseigner ses disciples concernant son retour. Il a déjà répété 3 fois, il a dit « Veillez, parce que vous ne savez pas quelle heure le Seigneur viendra. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il dit que son retour sera soudain, et donc il faut être prêt à tout moment. Et la parabole des 10 vierges, si vous vous souvenez de la semaine passée, nous indique qu'il y aura un temps d'attente avant le retour de Jésus. Donc non seulement nous devons être prêts pour son retour à tout moment, mais nous devons aussi être prêts tout au long de notre vie. Et donc la question se pose, comment utiliser le temps avant le retour de Jésus? Comment sommes-nous censés attendre la venue de Jésus? Est-ce que c'est une attente passive comme on attend le métro ou le bus sans rien faire? Peut-être on sort le smartphone et voilà. Ou est-ce que c'est davantage comme l'attente avant que des invités viennent pour manger chez vous? C'est James Elliot Hutchinson qui a utilisé cette illustration. Mais lorsque nous avons des invités qui vont arriver à 20h, qu'est-ce que vous allez faire en attendant? Est-ce que vous allez juste regarder par la fenêtre à partir de 15h de l'après-midi et regarder la montre toutes les 2 minutes sans rien faire d'autre? Est-ce que c'est comme ça que vous allez attendre l'arrivée de vos invités? Non. Il y a tout plein de choses à faire, n'est-ce pas? Il faut préparer à manger, il faut mettre la table, il faut nettoyer la maison, si c'est comme chez moi. L'attente sera très active, n'est-ce pas? Et c'est la même chose en attendant le retour de Jésus. Ce n'est pas une attente passive, on regarde par la fenêtre, on se dit, mais oh, quand est-ce que Jésus va revenir? Non, on est très très actif dans l'attente du retour de Jésus. Et Jésus nous dit que nous devons le servir de manière active et fidèle, avant son retour. Voyons donc l'histoire elle-même avant de tirer des leçons pour nous. Donc j'ai besoin de 4 volontaires. Sam, tu veux? C'est pas Sam. Si? Samuel, tu veux? Non! Oh! Joachim et Paul, aidez-moi. Il y aura un maître qui est très riche, qui a beaucoup de biens, qui est très sympa. Allez-y, vous deux, j'ai besoin de vous deux. Allez, hop, j'ai besoin de 2 autres personnes. 2 autres pour jouer l'histoire. Allez, venez, merci. 2 autres personnes. Zacharie, ouais, c'est très gentil. Zacharie peut venir. Et 4e. Charles, tu peux? Oui, vas-y, super. Alors, nous avons le maître ici. Qui veut être le maître? Qui veut être le maître? Oui, voilà. Toi, tu es très riche et tu vas mettre ça. Tu as beaucoup d'argent. Donc voilà, mets-toi ici. Et donc, toi, tu vas partir longtemps en voyage. Okay. Et avant de faire ça, tu vas appeler toi serviteur. Donc, appelez les serviteurs.
Venez.
Voilà, très bien. Il y a toi serviteur ici. Et tu vas leur donner de l'argent. OK? Tu vas donner, on va doubler les montants dans l'histoire parce qu'avec le temps, voilà, les prix... Il faut prendre ça en compte. Donc, vous allez donner 10 à quelqu'un. Tu peux choisir à qui tu donnes 10. 10 talents, ça c'est l'argent de l'époque. Donc, 10 talents. Tu vas donner 5 à un autre. Et tu vas donner 1, si j'ai 2. Tu vas donner 2 si je trouve ça au 3e. Ça va? Voilà, très bien. Et tu vas dire, vous devez travailler pour moi et me donner l'argent que vous gagnez lorsque je reviens. Super, très bien. Donc, vous avez des vestes que vous allez leur remettre parce qu'ils sont maintenant employés du maître. Donc, voilà. Tu vas être très cool, sophistiqué avec cela. Viens ici, Charles. Ici, voilà. Voilà, très bien.
Pardon, Zacharie, tu peux venir. Voilà. Alors, et donc les trois, nous avons ici, aussitôt que le maître parte, donc toi tu dois partir maintenant, ciao ciao, au revoir, toi tu vas gagner de l'argent avec ça, ok? Donc ce que tu vas faire, je pense que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire pour gagner de l'argent? Je pense que tu vas acheter Samsung, ok? Tu vas acheter Samsung et vendre des GSM, et Apple aussi, ça va? Tu vas faire ça? Ok, donc tu vas vendre des GSM, très bien. Donc, va vendre des GSM et tu vas gagner encore 10 avec ton 10 que tu avais. Donc, toi, tu as ça. Très bien. Alors, attends-toi là-bas. Très bien. Alors, Charles, tu avais combien?
5.
Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas vendre des ventilateurs à Bruxelles en été. Et ça va marcher très, très bien. Et donc, tu vas recevoir encore 5 que je n'ai pas. Donc, on va juste... Merci. Voilà. Mais le troisième... Lui, il a reçu un, il n'a pas du tout envie de servir le maître. Ça ne l'intéresse pas du tout. Et il se débarrasse de son veste, il ne veut pas, il a autre chose à faire que de travailler pour gagner de l'argent pour l'autre. Il n'aime pas le maître. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cache l'argent et il se plaît à faire autre chose dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Le maître revient. Voilà, le maître revient. Il arrive à Bruxelles, Zaventem, son chauffeur, le conduit jusqu'ici pour qu'on fasse un bilan des comptes. Et donc, il demande au premier, comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait avec mon argent?
J'ai acheté une compagnie de GSM et j'ai fait des bénéfices.
Super, et je te les rends. Maintenant, super. Et le maître, il est très content. Verset 21, qu'est-ce qu'il dit? On va dire ça tous ensemble. Verset 21, si on peut avoir ça. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Son maître lui dit... C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Wouh! Toi, tu es très content, tu vas entrer dans la joie de ton maître par là. Très bien. Alors, deuxième serviteur, qu'est-ce que tu as?
J'ai vendu des ventilateurs à Bruxelles en été.
Et? J'ai gagné. Voilà, super, viens, prends ce qui est à toi. Et qu'est-ce que le maître dit? Verset 23, on va le dire tous ensemble. Et donc son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Très bien, vas-y Charles. Et maintenant, on arrive au troisième. Et qu'est-ce que le troisième? Il commence à chercher des excuses, n'est-ce pas? Il dit, mais je savais que... Voilà, tu n'es pas gentil avec les gens et je ne voulais pas servir toi. Je ne voulais pas te donner de l'argent. Donc, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas... Mauvais serviteur.
Exactement. Et tu vas enlever son argent et tu dois le chasser dehors. Okay. Voilà. Et on va voir ça après. Toi et vous, vous allez vous réjouir dans la joie du maître. Par là. Donc, très bien. Merci beaucoup, les enfants. Vous pouvez les applaudir. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci, c'est très bien. La symbolique de la chose, de nouveau, est assez facile, n'est-ce pas? Le maître, c'est Jésus. Il part en voyage et longtemps après, il revient. C'est le retour de Jésus. Et la période entre les deux, c'est maintenant. Les serviteurs, ce sont des personnes auxquelles Dieu a donné des choses. Pas seulement des talents. Nous, on pense talent, voilà, je joue au tennis. Non, c'est pas ça. Ni seulement l'argent, mais c'est tout ce que nous avons. Et donc, nous devons mettre cela au service de Jésus en attendant son retour. Et il va demander des comptes à chaque personne à son retour. Et donc, nous allons voir deux choses ensemble. Il y a deux attitudes très différentes, n'est-ce pas, chez les serviteurs? Et nous allons prendre les deux attitudes à tour de rôle. Premièrement, être chrétien veut dire servir Jésus en attendant son retour. Être chrétien veut dire servir Jésus en attendant son retour. Comme les deux serviteurs qui ont bien travaillé pour leur maître, ce que Jésus veut chez les chrétiens, c'est qu'on attend son retour en mettant tout ce que nous avons à son service. C'est ça, finalement, en résumé de la vie chrétienne. Non pas de poursuivre mes projets ou mes rêves ou de revendiquer mes droits et de prier Dieu de temps en temps pour lui montrer que je m'intéresse à lui quand même. Toute notre vie, tout ce que nous avons reçu est à mettre au service de Jésus. Et nous pouvons nous poser la question, est-ce que je considère ma vie ainsi? Cette parabole indique que si je suis chrétien, si j'ai cru en Jésus pour recevoir le pardon de mes péchés, si je me soumets à lui comme mon maître, je ne devrais plus vivre pour moi-même, ni pour atteindre mes objectifs ou mes rêves dans ma vie. Après tout, ma vie ne m'appartient pas, c'est Dieu qui m'a tout donné. Comme c'était le maître qui a donné l'argent au serviteur à la base, n'est-ce pas? Et donc, il est tout à fait normal que nous mettions au service de Jésus tout ce qu'il nous a donné. Et pour moi, personnellement, cette parabole a révolutionné ma vie. Lorsque j'avais entendu ça pour la première fois, révolutionné ma vie. Qu'est-ce que je dois faire avec ma vie? Juste poursuivre mes rêves, m'épanouir ici sur terre, faire ce que les autres pensent est une bonne idée? Non. Servir Jésus avec tout ce que j'ai avant son retour. Bien que nous soyons entourés d'énormément de gens qui ne veulent pas du tout servir Jésus, notre vie sert à servir Jésus en attendant son retour. Et peut-être vous vous rendez compte que jusqu'ici, votre vie, dans votre vie, cela n'a pas été le moteur majeur de votre vie. Même si vous êtes chrétien depuis longtemps, vous êtes ici dans l'église depuis des années. Mais prenez un moment cette semaine devant le Seigneur pour prier et dire « Dorénavant, tout est à toi ». Je veux vivre dans tous les domaines de ma vie pour Jésus avant qu'il ne revienne. Mais on peut se poser la question, qu'avons-nous reçu de la part de Dieu et comment pouvons-nous le mettre au service de Jésus? Je vais vous donner quelques exemples que j'ai vus ici et là chez les chrétiens. Des chrétiens qui abandonnent leur confort pour servir Jésus et les autres. Peut-être que Dieu vous a donné une voiture, et ça me fait chaud au cœur lorsque j'entends que les personnes de l'Église ont donné un lift à quelqu'un d'autre. Même si ça représente un énorme détour, ça ajoute 20 minutes pour le trajet. Mais ils le font, parce qu'ils se mettent au service de Jésus. Ou d'autres personnes mettent leur voiture carrément à la disposition des autres. Voici les clés. Vous avez besoin pour un trajet? Allez-y. Ou peut-être avez-vous plein de livres chrétiens à la maison, vous les avez lus déjà. Pourquoi ne pas trouver quelqu'un à l'église qui pourrait en profiter également? Qu'en est-il de notre argent? Comment pouvons-nous donner, mettre notre argent au service de Jésus en attendant son retour? Ce n'est pas la question que votre conseiller financier vous posera. Vous n'allez pas entendre cela. Et il est vrai que Dieu ne nous demande pas de tout donner à l'Église et plus de ne rien avoir pour nourrir notre famille, pas du tout. Est-ce que vous voulez que l'argent que Dieu vous a donné contribue à une œuvre avec un impact éternel? C'est ça finalement l'œuvre de l'Église. Annoncer le message de Jésus-Christ mort et ressuscité pour que les pécheurs puissent être sauvés du jugement à venir pour avoir la vie éternelle? On veut donner notre argent pour cela, n'est-ce pas? Mais si vous n'avez jamais pensé à donner quoi que ce soit pour contribuer au ministère de l'Église, sachez que vous pouvez le faire de deux manières, soit avec le tronc ici, à droite vers la sortie, ou soit par virement bancaire, par ordre permanent. Et j'ai des amis qui ont dit, mais je vais mettre une limite à mon salaire, à X, et chaque fois que j'ai une promotion, je ne mets pas... améliorer ma qualité de vie, mais je vais donner plus à l'Église. C'est des gens qui mettent en pratique cette parabole. Je connais d'autres personnes qui ont une chambre d'amis et ils proposent un logement aux étudiants qui viennent étudier dans la ville. Ou d'autres profitent des repas du dimanche midi pour inviter quelqu'un de l'Église pour passer un moment encourageant ensemble. D'autres utilisent leur congé pour aider un camp chrétien. D'autres, comme notre pasteur Steve, laissent tomber un boulot bien rémunéré, la perspective d'une belle carrière, pour se former à un institut biblique, en vue de travailler à plein temps pour annoncer l'Évangile. D'autres, en tant que parents, soutiennent slasher leurs enfants. Ils sont encouragés. Moi, mes beaux-parents sont super. Ils ne nous ont pas dit, non, reste dans le milieu séculier pour gagner de l'argent. Non, ils ont dit, va dans la mission. Je connais d'autres personnes qui sont amies avec tous les gens de leur immeuble ou de leur quartier. Ils parlent avec tout le monde et ils mettent ce don au service de Jésus. Ils essaient d'inviter les uns les autres à l'église en offrant un livre chrétien, un fascicule qui explique l'Évangile. Les dons sont multiples pour servir Jésus. Qu'avez-vous reçu que vous pouvez mettre au service de Jésus et de son peuple en attendant son retour? Mais peut-être vous dites-vous, je ne suis pas doué comme un tel ou un tel, je ne peux pas faire autant que lui ou qu'elle. Mais avez-vous remarqué dans l'histoire que le maître a donné des montants différents aux trois serviteurs? À l'un, il a donné 5, et à celui-ci, il a encore gagné 5. À l'autre, il a donné 2, et celui-là a fait fructifier ses 2. Mais ce que Jésus dit aux 2 à la fin, c'est la même chose, n'est-ce pas? Nous avons lu cela ensemble, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Verset 23. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Ce n'est pas la quantité de dons que nous avons qui est important, c'est comment nous les mettons au service de Jésus. Donc, il ne faut plus se comparer aux autres en disant « si seulement j'étais à ce stade de vie-là » ou « si seulement j'avais une plus grosse maison pour accueillir les gens, si seulement j'avais plus d'argent à donner au Seigneur. » Non, avec ce que nous avons, ce que le Seigneur nous a donné, comment est-ce que je peux mettre cela à son service en attendant son retour? Jésus nous demande de le servir avec joie. Je connais des personnes âgées qui ne peuvent plus faire autant qu'avant. Mais ce qu'elles font, elles prient. Elles prient. Et c'est précieux. Elles montrent à la génération suivante dans l'Église comment vieillir sans devenir grincheux et amer. Nous devons tout mettre au service de Jésus. Mais on est tous d'accord que ce n'est pas facile. C'est difficile de vivre ainsi. Nous voulons vivre plutôt pour nous-mêmes. Moi, je lutte avec cela. Et être chrétien demande des sacrifices. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. C'est difficile, ça sera difficile. Mais regardez à la récompense qui nous attend. N'avez-vous pas envie d'entendre ces mots de la bouche de notre bien-aimé Sauveur et Roi? C'est bien, bravo! Entre dans la joie de ton Maître. C'est énorme! Peut-être en tant que parent, vous devez parfois féliciter vos enfants lorsqu'ils font un travail qui est franchement, pas super. Les enfants, ils dessinent des choses et vous dites, ok, je vais deviner ce que c'est, mais félicitations, bravo! Et de la même manière, peut-être notre travail pour le Seigneur est loin d'être parfait. Mais notre bon Père Céleste regarde cela et dit bravo. Bravo, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Peut-être vous avez eu l'expérience, ton patron t'appelle dans son bureau et dit, franchement, on est vraiment, vraiment content avec ton travail. Promotion, etc., etc., etc. Et vous dites, wow! C'est excellent. Mais c'est rien comparé à ce que Jésus va dire à son peuple. D'entrer dans la salle du trône de Jésus lui-même, le roi de tout l'univers, et qu'il nous dise bravo. Ça nous donne beaucoup de courage, n'est-ce pas, pour persévérer ici-bas. C'est bien sûr que c'est difficile. Mais regardons plus loin. Quelle joie de servir Jésus maintenant, en attendant son retour. Les deux premiers serviteurs nous montrent à quoi ressemble la vie chrétienne authentique. Servir Jésus en attendant son retour. Et le troisième serviteur nous sert d'avertissement. Ça, c'est notre deuxième point. Le non-chrétien refuse de servir Jésus et on subira les conséquences. Le non-chrétien refuse de servir Jésus et on subira les conséquences. Le troisième serviteur n'aime pas son maître. Parfois, en lisant cela, on peut avoir un peu d'empathie envers le troisième serviteur. On se dit, mais quand même, il a seulement reçu un talent. Et voilà, qu'est-ce qu'il devait faire avec cela? Il savait que son maître allait le prendre à la fin et tout ça. Mais non, on voit dans sa réponse, avec ce qu'il dit, il n'aime pas. Il dit, « Seigneur, verset 24, je savais que tu es un homme dur. » Mais on n'a aucune impression de cette histoire qu'il est un homme dur. Il n'est pas un homme dur. Et c'est tout à fait normal que les serviteurs lui remettent son argent à la fin. Ce troisième serviteur ne veut pas servir le maître. Il s'agit de quelqu'un ici sur terre qui ne veut pas servir Dieu, qui pense que Dieu n'a aucun droit de lui dire comment il devrait mener sa vie. Ce n'est pas la personne ici qui essaie de vivre pour Jésus et qui fait confiance en sa mort, mais qui a du mal à mettre toujours Jésus en priorité. Ce n'est pas cette personne que Jésus vise ici. Non, c'est la personne qui n'aime pas Jésus et qui ne veut pas du tout vivre pour lui. Et les conséquences, vous avez vu, pour une telle personne sont éternelles et affreuses. Au verset 28, on voit que son talent lui est ôté. Tout ce qu'il a lui sera ôté lors du jugement final. Ça ne sert strictement à rien de poursuivre d'autres buts sur terre que de suivre Jésus. Parce que tout cela vous sera enlevé à la fin de toute façon. Et verset 30, il sera jeté par Dieu dehors dans les ténèbres, loin de la joie de la présence de Jésus dans la vie éternelle. Mais là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus parle de nouveau de l'enfer ici. Nous, on pense que c'est très médiéval de parler de l'enfer. Mais non, c'est sur les lèvres de Jésus, l'homme qui est rempli d'amour, qui veut nous avertir qu'il y a un endroit réel où les personnes qui n'ont pas voulu vivre pour le roi souffriront pour toute l'éternité. Ils ne connaîtront plus jamais le bonheur ou la joie, la satisfaction ou le plaisir, mais seulement le chagrin, les pleurs et le désespoir sans cesse, le grincement des dents. Sachant qu'ils ne peuvent rien faire pour changer leur destin. Si vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas encore chrétien. Sachez qu'un jour, vous allez vous tenir devant Dieu comme votre juge. Et à moins d'accepter ce que vous offre Jésus, le pardon de toutes vos fautes, vous irez en enfer. C'est ce que moi je mérite, c'est ce que nous méritons tous. Jésus ne dit pas cela juste pour nous faire peur, mais pour nous faire réagir. Il est encore temps, mes amis. Si cela est très nouveau pour vous, mais merci de venir parler à quelqu'un après. Les enjeux sont éternels. Comment attendre le retour de Jésus? Nous avons vu deux manières de vivre, deux façons de vivre, si vous voulez, deux destins tout à fait opposés. Jésus nous demande d'attendre son retour de manière active, en mettant tout ce qu'il nous a donné, tout ce que nous sommes, à son service. C'est ça, attendre le retour de Jésus. C'est ce qui devrait être le but de notre vie. Notre maître est parti. Un jour, il reviendra. Et en attendant, servons-le de tout notre cœur. Et gardons nos yeux fixés sur le moment où nous entendons ces paroles de sa bouche. Bravo, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est vraiment un encouragement. Si nous vivons pour Jésus, nous allons entendre ces paroles à la fin des temps. Mais c'est un défi si vous vivez pour autre chose. Je vais terminer avec un extrait d'un livre qui parle d'un pasteur qui a travaillé au Canada francophone dans les années 30 et 40. Un pasteur peu remarquable dans un sens, mais qui a passé sa vie à servir Jésus en attendant son retour. C'est son fils ici qui décrit la mort de son père. Quand il est mort, il n'y avait pas de foule à l'extérieur de l'hôpital, aucune mention dans les journaux ni des déclarations à la télé. Dans sa chambre à l'hôpital, il n'y avait personne pour l'entourer. Il avait seulement le doux sifflement de l'oxygène, encore en marche, mais en vain, car il avait cessé de respirer et n'en aurait plus besoin. Mais de l'autre côté, toutes les trompettes ont sonné. Mon père a gagné accès à la seule salle du trône qui compte, non pas parce qu'il était quelqu'un de bien ni quelqu'un de grand, mais parce qu'il était un homme pardonné. Et il entendit la voix de celui qui l'attendait avec impatience lui dire « Bravo, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour tout ce que tu nous as donné dans notre vie, notre temps, notre énergie, notre maison, notre appartement, notre véhicule, notre argent, notre avenir, tout ce que tu nous as donné. Et nous savons que cela vient de toi et nous voulons te demander pardon des fois où nous ne mettons pas au service de Jésus ce que tu nous as donné, mais nous essayons de le garder pour nous-mêmes. Nous savons que nous méritons l'enfer, tout comme troisième serviteur. Mais nous te remercions parce que Jésus a pris notre place à la croix. Il a subi ta colère qui aurait dû tomber sur nous. Quelle grâce, quelle grâce. Et à la lumière de ce pardon, que nous puissions vivre pour Jésus en attendant son retour. Que cela soit le but de notre existence, même ici sur terre. Garde-nous de poursuivre d'autres rêves, d'autres projets. Garde-nous de penser qu'il y a autre chose dans la vie qui est plus passionnante, plus importante que de servir Jésus. Et que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, soit à son service d'ici son retour. Et nous t'en prions en son nom. Amen.